Parfois, je réussis des choses que j'entreprends, parfois je me plante. Mais en fait, c'est ça la vie, c'est un jeu, c'est une expérience, c'est une aventure. On se dit toujours, mais est-ce qu'il faut que je pousse quand même? Je vais pas partir en plein milieu. Et à un moment, il faut penser à soi, il faut s'écouter, il faut se préserver, il faut dire « j'en peux plus, ça ne me convient plus, je m'en vais ». Il faut se lancer, on s'en fout, mais on s'en fout, et bah t'es pas légitime, et qui est légitime de pas fier? Je suis heureuse d'avoir réussi à me trouver. Ceux qui ont des regrets, oui, mais c'est qu'ils étaient pas prêts à le faire. Et dès qu'on s'ouvre au monde, mais plus rien ne fait peur. Et plutôt que de subir sa vie, pourquoi est-ce qu'on la kiffe pas? Tout le monde a peur, donc allons-y quoi, go!
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Si vous avez déjà écouté un épisode du podcast de l'arnaque de Pénélope Boeuf, vous savez déjà qu'elle est parisienne, qu'elle a 35 ans, qu'elle a un humour décapant et qu'elle croque la vie à pleines dents. Et que son signe distinctif est un smiley tatoué sur le bout du doigt des pieds. Si on souhaite découvrir Pénélope Boeuf sous la facette professionnelle, le profil LinkedIn de Pénélope vous révélera ce que j'appellerais un puzzle, qui fait qu'aujourd'hui, c'est une podcasteuse aux millions d'écoutes après seulement un an de lancement. En effet, avant de devenir créatrice du studio de narration audio La Toile sur Écoute, Pénélope a varié les jobs en marketing et événementiel dans des entreprises renommées comme Publicis, M6, Groupon, Energy Group, Michelin. Mais Pénélope a aussi été présentatrice sur WeFM et a fondé Eat Your Box, entreprise qu'elle a revendue ensuite. Pour reprendre l'expression de Pénélope, je ne voudrais pas vous spoiler sur la suite, mais vous allez découvrir la papesse du j'ose. Alors, rentrons directement dans l'univers de Pénélope Boeuf. Alors, Pénélope, je te propose de te présenter grâce à l'objet que je t'ai demandé de ramener, qui te présente, s'il te plaît.
Tout à fait, j'ai rapporté un collier bonbon, mais d'ailleurs que je mets au poignet plutôt qu'au cou. Et alors, pourquoi c'est mon objet un peu phare qui me représente? Parce que je croque chacun de ces bonbons comme je croque chacun des événements de la vie à pleines dents. Et d'ailleurs, quand on croque ces bonbons, je ne sais pas si tu te souviens de ce...
Tout à fait.
Quand on les croque, parfois, tu arrives à en avoir un complètement dans la bouche et c'est génial. Et parfois, il y a la moitié qui tombe, etc. Il y en a qui foirent. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que parfois, je réussis des choses que j'entreprends. Parfois, je me plante. Mais en fait, c'est ça la vie. C'est un jeu, c'est une expérience, c'est une aventure.
C'est un peu comme Forrest Gump,
la boîte de chocolat. Exactement.
Est-ce que tu peux nous raconter qui était la petite Pénélope pour mieux comprendre d'où tu viens?
Alors, la petite Pénélope était une petite fille joyeuse, innocente, joviale, sportive, compétitrice.
Quel sport?
Oh là là, alors j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait de la gym, du ruban, du cirque, du jonglage, du trapèze, du handball. Et puis après, j'ai fait 10 ans de volleyball. Et c'est vraiment là où je me suis éclatée. Et en fait, j'étais vraiment heureuse de vivre, très timide, pas tellement audacieuse, mais je faisais ce qui me venait sous la main, enfin j'avais peur de rien quoi.
Et du coup, la timidité, elle se représentait comment?
Ah bah j'étais rouge écarlate, j'étais incapable de demander un ticket au cinéma, j'étais incapable de demander quoi que ce soit à un serveur ou à un vendeur au Monoprix. Et en fait, cette timidité, petit à petit, elle s'est estompée.
Parce que là, on peut dire que tu es à l'opposé de la timidité pour ceux qui suivent tes aventures sur l'arnaque. Comment t'as réussi à affronter ça?
Alors, je suis pas vraiment à l'opposé de la timidité parce que, en fait, le fait de faire énormément de choses et d'aller de l'avant et d'être curieuse et de poser plein de questions aux gens et de m'intéresser, etc., c'est aussi une façon qu'on ne le fasse pas pour moi. Parce que je reste quand même assez timide. Et en fait, je pense que c'est aussi le fait d'avoir travaillé pendant 10 ans dans des grosses boîtes où tu devais prendre la parole en réunion, etc. J'étais rouge écarlate en réunion, je n'osais pas. Et je le faisais quand même, hein, mais c'était très dur. Et puis depuis que je fais ça, maintenant, en effet, je suis beaucoup moins timide parce que je fais ce que j'aime et donc j'ai plus peur.
T'as plus peur. Et donc t'étais une petite fille timide. C'était quoi tes matières préférées à l'école?
Mes matières préférées à l'école, franchement, c'était le sport.
Ouais.
Sinon, l'histoire, je comprends rien. La géographie, je sais même pas où est
Les arts plastiques.
Les arts plastiques, oui. Mais alors, en fait, j'ai un vrai problème. c'est que j'ai aucun talent visuel. Je ne sais pas si le rouge va avec le vert, etc. Et j'ai les mains moites. Et donc, dès que j'écris, je dessine ou que je colorie, ça bave. Et donc, j'avais toujours zéro en art plastique. Pourtant, j'y mettais du mien, hein, mais vraiment, j'étais très mauvaise.
Ça ne marchait pas. Non. Et dans quel environnement tu as grandi ? Donc, tu es née à Londres ?
Donc, je suis née à Londres parce que mon père était expat. Et j'ai vécu 8 ans là-bas. Mais en fait, j'ai commencé à parler tout court, très tard, à 3 ans. Et du coup, mes parents n'ont pas voulu me compliquer la vie. Et du coup, ils m'ont mis dans une école française. Donc, en fait, je parle anglais comme le kidam. Alors, quand même un peu mieux avec un petit accent. Enfin, il y a deux mots que je dis très bien en anglais. C'est water et literature. À part ça, j'ai un très mauvais accent anglais. Et j'ai vécu ensuite, on est arrivé à Saint-Cloud après 8 ans. Et à Saint-Cloud, voilà, j'ai passé quelques années. Et ensuite, quand j'ai fait ma fac à Assas, je suis arrivée à Paris. Après, j'ai plus bougé de Paris. Enfin, j'ai passé un an à Saïgon, mais sinon, c'était Paris.
Et qu'est-ce qui a pu changer dans ta vie entre Londres et Paris ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont forgé, des points de vue différents ?
Oui, alors il y a deux choses. C'est ça qui me viennent à l'esprit tout de suite. C'est qu'à Londres, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, si ce n'est que je menais une vie d'expatrié. Donc... c'était une très belle vie, j'ai eu une très belle enfance, on n'avait pas de soucis à se faire et l'innocence de l'enfance fait aussi qu'on a encore moins de soucis à se faire. Et quand on est arrivé à Saint-Cloud, là j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait... Parce qu'en fait, on est arrivé à Londres et ensuite j'ai fait 6 mois à Paris et ensuite on est allé à Saint-Cloud parce que justement, les 6 mois à Paris, donc j'étais en CM1 et j'ai eu un accident de voiture, je me suis fait renverser par une voiture, je traversais au piéton, il y avait j'ai pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait, bref. Et puis boum, donc j'ai eu tibia, péroné et clavicule cassée. Donc j'ai passé 3 à 6 mois dans un fauteuil roulant parce que je pouvais pas prendre de béquilles. Ça m'a marqué. C'est pour ça que je pense que mes parents se sont dit oulala, Paris, ça, c'est un peu violent. Alors que, bon, on sortait de Londres, mais bon, quand même. Et on est arrivé à Saint-Cloud. Et à Saint-Cloud, en 4e, je me suis pris une porte vitrée dans la figure parce que je ramassais un ticket de métro dans les escaliers de chez moi. Et puis la porte s'est refermée. J'ai voulu la rattraper. Bim, et la vitre, c'est coupé en 4 gros morceaux et donc ça m'a perforé la paupière, j'ai eu 42 points de suture, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a forgé. Alors, l'accident de voiture, ça m'a forgé parce que quand même, je suis restée 3 mois dans mon lit à regarder des séries télé et j'avais 8 ans. Ouais. Donc quand même, faire mon monde imaginaire à moi et à ne pas être avec les autres élèves. Mmh. Et je pense que c'est là où j'ai développé une certaine créativité parce que le soir, quand je rentrais à la maison, on me disait qu'est-ce que t'as fait de la journée, à part regarder la télé, pas grand chose, mais en fait je racontais des histoires, j'inventais des jeux et ça m'a vachement aidé. Et ensuite en quatrième, avec cet accident à la figure, du coup je suis arrivée avec un bandage, une tête de momie à l'école et les gens pensaient que je faisais mon numéro pour me rendre intéressante et ça a été très très dur ça et ça m'a forgée et je sais pas, ça m'a rendue plus forte. Et puis cette cicatrice, ma mère voulait me la faire enlever parce qu'elle me couvre quand même le visage, enfin une grande partie du visage. Et aujourd'hui, moi, je l'aime. J'ai pas du tout envie de l'enlever parce que ça fait partie de moi et ça me donne un peu un côté warrior, aventurière qui me plaît. Ça, c'est mes deux gros trucs. Après, sinon, non, ouais.
Pas de choses spécifiques. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, tes parents ? Donc, qu'est-ce qu'ils font toujours d'ailleurs ?
Alors, ils sont à la retraite. Ma mère était psychologue. Et mon père était, alors en Angleterre, il était directeur de la maison du Club Méditerranée, du Club Med. Mm. Et à Paris, il était directeur de la maison de la chimie.
D'accord.
Voilà.
Donc, je te pose la question parce que forcément, avec ton parcours, en fonction de qui ils sont, ils ont vécu différemment les grandes étapes de ta vie. Parce que comme je le disais dans l'intro, ta vie est un peu un puzzle au niveau professionnel. Et donc, comment eux, ils ont vécu... Tu vas nous raconter un peu les grandes étapes de ta vie et comment ils ont vécu ça. Et puis tes proches, s'ils t'ont soutenu ou non.
Oui, alors ils m'ont soutenu. Après, ce n'est pas des entrepreneurs. Alors, ils le sont dans l'âme, ils font beaucoup de choses, ils sont dans l'action. Mais ce n'est pas des entrepreneurs, ils n'ont jamais monté de boîte. Donc quand j'ai monté notamment ma première boîte, tu veux que je reprenne peut-être au début ?
Oh, tu peux commencer sur Iturbox.
Ouais, donc j'ai monté... Je sortais de Groupon, j'avais travaillé pendant 2 ans chez Groupon comme une folle, j'avais fini en burn-out et là avec une copine de chez Groupon on s'est dit allez montons une boîte et donc en 1 mois et demi on a essayé de réfléchir, tac tac, on a brainstormé et on s'est dit allez on monte Eat Your Box, donc c'est une boîte surprise dans laquelle vous avez des produits culinaires et des recettes avec des recettes de l'atelier des chefs. On a monté ça très rapidement en 1 mois et demi et là en fait je suis allée voir mes parents et pour la première fois de ma vie, donc j'avais 28 ans, pour la première fois de ma vie je leur ai pas demandé la permission. Je leur ai dit voilà je monte une boîte. Là ils sont tombés des nuits, ils ont dit comment ça tu montes une boîte? J'ai dit bah oui je vais monter une boîte. Mais avec quel argent? Donc j'ai craqué mon PEL, c'était un compte sur lequel eux l'alimentaient en fait depuis que j'étais petite. Donc c'était 19 000 euros, donc j'ai craqué 19 000 euros, mon associé aussi et puis on s'est lancé et en fait le fait, pour la première fois de ma vie, de ne pas leur demander la permission, ça me rendait adulte. Mm-hmm. Je faisais un premier pas dans l'adulte. Donc, j'ai mis un peu de temps, parce qu'il y a 28 ans, mais bon, quand même.
Tu t'étais déjà dit, j'aimerais monter ma boîte, quand tu entendais des histoires d'entrepreneurs
Pas du tout. C'était pas du tout mon truc. Quand même, enfin, de moins en moins, enfin, même pas du tout, mais avant, j'avais une sorte de poil dans la main. Et j'ai toujours réussi à avoir des jobs bien sans vraiment bosser. Même à l'école, j'arrivais, etc., à bosser sans vraiment foutre grand-chose. Et du coup, monter une boîte, ça me paraissait un truc immense, hyper dur. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Je suis pas une entrepreneur dans l'âme parce que j'aime bien... Non, enfin, non. Et en fait, comme je sortais d'un burn-out, que je pouvais plus voir l'entreprise en peinture, j'avais pas d'autre choix que de monter une boîte parce que sinon, je ne faisais rien, je restais dans mon lit. Et donc, du coup, j'ai monté une boîte un peu par défaut. Et finalement, je me suis révélée parce que c'était extraordinaire de monter ses propres projets, prendre ses propres décisions. Si on se plantait, c'était notre faute. Cette association aussi, c'est très difficile, l'association. On en parle tout le temps dans les startups, hein, mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est une sorte de couple professionnel et que vous élevez un enfant ensemble. Donc forcément qu'il y a des problèmes d'éducation de l'enfant. C'est très intéressant. Et donc quand je leur ai dit ça, mes parents, ils sont tombés des nues. Et puis ils ont dit, OK, bah, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, à 28 ans, débrouille-toi. Quoi. Et ils m'ont soutenu et ça a fonctionné. Parce qu'après, au bout d'un an et demi, on a été approchés par un groupe média. Et on a vendu cette boîte 500 000 euros. Donc génial. Ouais. Ils étaient très heureux. Et ils m'ont dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, j'en sais rien.
Et ton burn-out, si on y revient, c'était un vrai burn-out parce que finalement, il y a 6 ans.
C'était en 2012 que j'ai pété un plomb. Alors en fait, je suis arrivée chez Groupon. J'ai fait 3 boulots différents. D'abord des relations partenaires, après du marketing. C'était au tout début de Groupon, donc on montait très très vite dans les échelons. On était très bien payés. C'était des conditions extraordinaires. Et puis moi, je me lasse généralement assez rapidement. Et donc là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire après le market? Ils m'ont dit, bon, Pénélope, tu maîtrises complètement Black Office. Tu pourrais vendre n'importe quoi. Vas-y, deviens directrice commerciale. Et donc j'ai dit, OK, super. Donc tu vas piloter pour l'instant des petites villes. C'est des équipes de 5-6 personnes, mais ils ont tous 35 ans et c'est des vrais commerciaux. Oui, OK, pas de problème, de toute façon, il n'y a pas d'histoire d'ego, etc. Donc, OK, j'y vais, donc j'arrive. En fait, j'étais assez mal reçue, parce qu'en effet, j'avais jamais vendu quoi que ce soit, même si je connaissais tout, j'avais jamais vendu, j'avais jamais fait de commercial pur. Et surtout, je ne maîtrisais pas les chiffres. Et donc, quand ils me demandaient, et alors, ma prime, elle est de combien si j'ai fait 14% de 70 000 enfin, c'était l'enfer. Et en fait, personne ne me soutenait. Et en fait, je me suis brûlé les ailes toute seule. Et le burn-out, je ne me rendais pas compte que ça faisait longtemps que j'étais un peu en tension. Et puis tout d'un coup, je suis arrivée chez Groupon, j'ai eu un coup de fil, ça s'est mal passé. J'ai pété un plomb et j'ai dit, je me casse. Je pouvais plus. Je suis partie en plein milieu de la journée sans demander rien à personne. Et j'étais dans la rue, j'ai dit, mon Dieu, je fais quoi. Et je suis allée chez un médecin pour avoir un certificat médical. En fait, je ne pouvais plus revenir. Donc, je pensais faire un petit stop d'une semaine. Je ne pouvais plus revenir. Il m'a dit, OK, il faut vous arrêter une semaine. Je suis restée chez moi. Et en fait, je me faisais chier. Mais en même temps, je ne pouvais plus voir les collègues en peinture. Je ne pouvais plus voir l'entreprise. Je ne pouvais plus voir les employeurs. Enfin, je haïssais l'entreprise. Et je n'avais pas d'issue. C'est horrible. Tu n'as pas d'issue. Et en fait, on te dit aussi, tu es en arrêt maladie, donc tu es malade. Non, je n'étais pas malade. Je pouvais très bien aller au cinéma, faire du sport. Mais je ne pouvais plus travailler. Ouais. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre ce truc de burn-out.
Je pense qu'il y a surtout, je te coupe, juste surtout il y a 7-8 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis je fais un burn-out, bon, les gens disent ouais, ça va, t'as le sourire. Non, je fais un vrai burn-out, je peux plus travailler. Oui. Mais il y a 8 ans, je pense que le regard des autres n'était pas le même.
Et en plus, j'ai dû revenir. Au bout d'un mois, je suis revenue parce que je ne peux pas non plus. Et puis, il fallait que j'ai fait une rupture conventionnelle pour avoir du chômage pour pouvoir monter cette boîte. Et quand je suis revenue, au bout d'un mois, on m'a dit bah alors, c'est bon, en fait, t'es pas si malade que ça. Je dis, en fait, c'est pas maladie physique, enfin, j'ai pas un rhume là. Et donc, c'était hyper dur. Les gens sont pas du tout. Alors maintenant, à l'époque, vraiment, c'était très compliqué.
Ouais, j'imagine. Et t'as réussi parce que bon, dans le burn-out, on a un peu de problème de confiance en soi pour y retourner parce que on se fait quand même mal. La peur de se dire, bah tiens, si j'y retourne à fond, en plus, quand tu montes une boîte, tu te dis, j'y vais à fond, mais est-ce que je vais pas me reprendre un mur
Ouais, j'ai perdu la confiance en moi, mais qui s'est déclarée un peu plus tard dans les autres expériences que j'ai eues après avoir monté ma boîte. Mais quand j'ai monté ma boîte, en fait, non, j'avais confiance en moi parce que déjà, j'avais une associée qui croyait en moi et je croyais en elle et on croyait en nous. Et aussi parce que c'était moi, j'avais. En fait, le gros problème, il était sur le management que j'avais pas géré. Donc le problème, c'était un problème de management. Et aujourd'hui, je ne sais pas manager, je ne veux pas manager. Même là, l'idée d'avoir une stagiaire pour ma boîte, c'est l'enfer. Donc non, j'ai toujours perdu confiance sur le management. Alors que pourtant, je suis plutôt une leaduse, j'étais capitaine d'équipe de volley, etc. Donc j'ai toujours pensé que je ferais une bonne manager. La preuve en est que je n'avais pas été bonne, sauf que c'est un vrai métier et que je ne m'avais pas du tout formée à ça. Mais du coup, comme ma boîte, on n'était que deux, qu'après, il y a eu des stagiaires, mais je les donnais plutôt en management à mon associé. J'ai pas eu de problème. C'était vraiment sur le management que j'ai eu du mal.
Et donc, du coup, vous avez vendu ta boîte et j'ai entendu dans l'interview de Web Today, enfin, le pitch que tu avais fait, où tu disais qu'en fait, tu t'es retrouvé en mode ça y est, c'est vendu. Et j'avais entendu dans le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, de Marc Simoncini, qui disait qu'après avoir vendu une boîte, il s'est retrouvé en mode vidé. On lui avait retiré son bébé. Enfin, c'est quelque chose qu'on imagine rarement. On se dit, bah super, ils ont encaissé un chèque, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe après?
Ouais, alors moi, j'ai pas eu le sentiment du bébé parce que franchement, j'ai monté une boîte de bouffe alors que je m'en fous un peu de la bouffe. J'aurais pu monter une boîte de machine à laver, c'était pareil. Mais c'était plus, j'ai vendu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Surtout que je n'avais pas vendu 50 millions d'euros et donc je ne pouvais pas me permettre d'aller au Club Med et de rien faire. Et de toute façon, je n'avais pas envie d'aller au Club Med, j'avais envie de travailler, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, je ne pouvais pas réinvestir dans des boîtes. Enfin, il fallait quand même que je trouve des choses à faire pour me nourrir dans les quelques mois à venir. Je pouvais tenir un peu, mais... Et en fait, on n'en parle jamais dans les conférences sur les startups, etc. On ne parle que de la réussite ou de l'échec, mais on ne parle pas de « et après ». Et en fait, mon associé, pour le coup, est parti vivre à l'étranger. J'avais même plus d'associé pour remonter une boîte. Et puis de toute façon, j'étais pas prête à remonter une boîte parce que ça avait été dur, etc. Et je me suis retrouvée vidée et en dépression. Donc après le burn-out, je me suis fait la dépression. Donc c'est pas une dépression, enfin c'est une dépression, je sais pas si c'est une dépression au sens pathologique du terme, mais disons que j'étais sur mon canapé à plus pouvoir faire quoi que ce soit et j'avais la prétention de penser que Uber, Blablacar, Airbnb allait m'appeler. Sauf qu'en fait, personne ne me connaissait parce que j'avais vendu que 500 000 euros, puisque c'est rien à l'échelle des grosses startups. Et donc, ils me recevaient quand même. Et quand ils me recevaient, ils me demandaient « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « Je sais pas, donnez-moi une business unit. »« Oui, mais quel genre de business unit ?»« Je ne sais pas. » Et en fait, du coup, je ne réussissais pas les entretiens. Et c'était cata. Et donc, je restais sur mon canapé. C'est hyper dur. Et en fait, je m'en suis sortie parce que j'ai envoyé un CV un peu à la mer et que j'ai rencontré un type super qui m'a fait confiance. Et derrière, je me suis occupée d'organiser des conférences autour du digital. C'est pas du tout ce à quoi j'aspirais, mais pourquoi pas, c'était un nouveau projet avec des nouvelles perspectives à l'international. Et donc, ça me plaisait.
Et dans tout ton parcours, il y a eu WeFM.
Oui.
En fait, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, donc j'ai regardé ton parcours et tout, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, c'est une podcasteuse aujourd'hui, elle a fait de la radio avant, ça devait être une star, elle a une voix de ouf, donc c'est évident que ça a dû marcher. Mais en fait, quand on creuse, c'était pas finalement si un moment de bonheur.
Non, c'était pas si rose. En fait, WeFM, j'ai gagné un concours pour être animatrice sur la matinale de WeFM. C'est quand Arthur des Enfants de la Télé a racheté WeFM, il voulait se faire un peu connaître et du coup il a lancé un casting sauvage.
C'était en quelle année?
C'était en 2008. C'était en 2008. Et j'ai postulé. Il fallait venir avec une chronique, carte blanche. Je suis arrivée sur la chronique, c'était qu'est-ce qu'on pense du costume sac à dos pour les hommes? Parce qu'à l'époque, Frédéric Mitterrand allait à l'Élysée avec son costume sac à dos et bon, je trouvais ça ringard. Et donc, du coup, j'ai fait une chronique là-dessus et j'ai gagné. Sauf qu'après, derrière, il y avait trois autres étapes. Donc, je passe les autres étapes. Et la dernière étape, c'était un quiz musical. Et je me retrouve en finale avec ce Benjamin, très sympa. Sauf que moi, je suis nulle en quiz musical, je connais rien en rock. Moi, j'écoute juste des chansons françaises, Nino Ferrer, Alain Souchon et Woozy. Et du coup, ça allait être très compliqué. Et au moment de la finale, hop, les musiques passent, je trouve pas la première musique. Et là, l'animateur me fait des petits coups de coude en me disant « Mais Pénélope, allez là, vas-y, tu trouves pas vraiment ?» Bah non, je trouve pas. Il n'encourageait pas du tout le Benjamin. Donc je le regarde à un moment, genre « Mais oui, pourquoi tu me saoules ? Enfin, je suis nulle, je sais, je suis en stress, je veux gagner cette finale, mais je n'y arrive pas. » Et il continue « Mais Pénélope !» Il me fait des gros yeux, etc. Et donc je comprends pas, il regarde la table, donc je regarde la table, et là je vois qu'il y a une feuille avec les réponses qui sont stabilotées en jaune. Et donc là, j'ai le choix de tricher ou de ne pas tricher. Donc bien sûr que la première question, je la triche en simulant le « je sais pas, ah si, c'est corne !» En plus, corne, le truc avec le K à l'envers, là, enfin l'enfer, je ne connais pas du tout. Et puis au final, on se dit qu'on peut gagner, mais en trichant, est-ce qu'on veut tricher? Est-ce qu'on veut ne pas saisir l'opportunité qu'on nous tend? Parce que finalement, je n'ai fait que saisir une opportunité en trichant, donc il y a l'éthique qui rentre en jeu. Enfin, ça se passe en 30 secondes, c'est très compliqué, il faut être rapide, parce que ça se trouve, l'autre à côté, il va trouver la réponse. Et en fait, j'ai triché.
Est-ce que tu l'avais déjà avoué à quelqu'un, ça, que tu avais triché?
Ouais, je commence à l'avouer, maintenant ça y est, j'assume, et puis c'est pas grave, j'ai triché en même temps.
T'as pas vraiment triché.
Voilà, j'ai saisi une opportunité. J'ai triché, disons. J'ai triché.
Bon, Benjamin, si tu nous écoutes.
Après, Benjamin, en revanche, il n'a pas été du coup co-animateur, mais il a été chroniqueur, donc il avait comme sa chronique une fois par semaine à l'antenne. Mais j'ai triché. Mais je préfère dire que j'ai saisi l'opportunité parce qu'il y a des opportunités aussi comme ça qu'il faut saisir parce que c'est ça, en fait, la vie, elle vous tend des perches. En fait, si j'avais pas triché, c'est quand même un peu con. parce que j'aurais pas gagné. Mais en même temps, j'aurais été en accord avec ce que je suis. Oui, bon, je sais pas. Bon. Et donc, du coup, le lendemain, bah, très bien, arrive dans 3 jours, à 5h du matin, d'accord. Donc, je suis en co-animation avec un animateur qui a 15 ans de radio. Je l'avais jamais rencontré. Et on me dit, bah, arrive lundi prochain à 5h du matin et tu verras, tout va se passer très bien. Et donc, j'arrive le lundi matin à 5h du matin. Salut, salut. Bah, ok, qu'est-ce que je dis? Bah, t'inquiète pas, ça va se faire tout seul. Et il me met le casque, hop, il ouvre, ah, salut à tous, nanana, bienvenue sur WeFM la matinale. Et on vous présente, je vous présente Pénélope qui vient d'arriver, qui est la première fois qu'elle parle dans un micro. Alors Pénélope, qu'est-ce qu'il t'a
le
dit?
Le truc qui vachement, vachement à l'aise.
Horrible, ouais. Enfin, horrible. Et là il me dit, il m'avait pas prévenu de ce qu'il allait dire. Et Pénélope, qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin ton mec quand t'es partie à 5h du matin? Et là, alors moi j'ai jamais fait de radio, en fait dans la radio normalement tout est préparé, tout est écrit. Les gens savent ce qu'on va dire, donc t'as préparé ta punchline, ta répartie, etc. Là, moi, je suis prise de court. En l'occurrence, à l'époque, j'avais pas de mec. Et puis, ça regarde personne de savoir si j'ai un mec ou pas. Et donc, j'ai dit, mes premiers mots à l'antenne ont été il m'a dit bonne journée. Non, mais catastrophe. Et en fait, ça a été ça pendant un an. C'est-à-dire qu'il me préparait jamais aux questions qu'il allait me poser. Donc, j'avais pas le temps d'être rapide, intelligente et vive. Donc, j'étais ridicule. Et d'autant que, au fur et à mesure des mois, il trouvait que j'avais vraiment aucun talent pour raconter des histoires. Et donc, à chaque fois que je parlais, il me mettait la main devant la figure. Et donc, je m'arrêtais en plein milieu de la phrase. Il voulait que je m'arrête de parler.
Ce qui est hyper violent.
Ce qui est hyper violent. Et j'avais mes potes, mes parents qui m'écoutaient, qui me disaient « Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu de ta phrase ?» Je disais « Parce que le mec me met la main devant la figure. » Mais c'est pas grave, continue. Ouais. Sauf que, franchement, une main d'homme en face de vous qui vous dit « Stop !» Vous arrêtez de parler.
Ouais, c'est sûr. C'est...
Et tous les matins, je me disais « Je m'arrêterai pas de parler, je m'arrêterai pas de parler. » Et il le mettait, j'étais « Mais je m'arrête de parler. »
T'en as déjà parlé avec lui, à cette époque-là, en mode « Pourquoi tu fais ça ?»
Oui, je lui dis « Mais t'es odieux. » Après, on était un peu en conflit quand même, ouais. Parce que j'aime pas du tout sa façon de faire. Mais je lui disais « Mais c'est odieux, laisse-moi parler. » Non, sauf que tu dis « Ça n'apporte rien, ce n'est pas intelligent, ça dessert l'émission. Donc non, quand je te fais ça, tu ne parles pas, c'est moi qui pilote l'émission. » Donc et puis au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'étais payée aussi 700 euros par mois pour faire 6h-9h30, normalement, ouais. Sauf que lui, il voulait que je travaille l'émission du lendemain, donc je trouvais les invités, je lisais des bouquins, je faisais des fiches, et lui, il posait des questions aux invités, moi, j'avais pas le droit de poser des questions aux invités, enfin, c'était compliqué. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, et donc, au bout de 6 mois, j'ai trouvé un CDD chez M6, et donc, je faisais 6h-9h30, Bastille, WeFM, et 10h-19h, M6, au Sablon. Et puis, un jour, au bout de 8 mois, à 9h25, juste avant de partir vite au Sablon, parce que quand on arrive à 5h du matin à la radio, franchement, en fait, il faut savoir que donc, je me réveille à 4h du matin. Je fumais une cigarette à 4h du matin pour me réveiller. Je m'endormais. Je la fumais dans mon lit. La clope, la cendre de la clope me tombait sur la main. C'est ça qui me réveillait parce que je m'étais endormie en fumant. Enfin, vraiment. Et donc du coup, à 5h, hop, tu prends ta douche, t'enfiles un vieux pull à capuche, un vieux jean et tu pars. Sauf que je pouvais pas non plus aller comme ça chez M6. Et donc à 9h25 du matin, juste avant d'aller chez M6, je me mettais un petit coup de peigne, un coup de mascara. Et je partais. Et un jour, ça l'a exaspéré, parce que j'étais pas à fond dans l'émission. Et il me dit, arrête de prendre l'émission pour un salon de coiffure. Sauf que moi, j'ai les cheveux courts, en 2 secondes, je me coiffe à peine. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, va te faire foutre, j'en peux plus. Et je suis partie, j'ai claqué la porte et je suis plus jamais revenue. Donc, je suis partie 2 mois avant la fin de la saison.
D'accord.
Mais en fait, je me suis préservée.
Ouais.
Et c'est ça aussi, je me suis préservée du burn-out aussi, parce que...
Donc, le burn-out, c'était après.
Parce que et le burn-out, en plus, c'était après. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que... On se dit toujours, mais est-ce qu'il faut que je pousse quand même? Je vais pas partir en plein milieu. Il y a un moment, il faut penser à soi, il faut s'écouter, il faut se préserver, il faut dire, j'en peux plus, ça ne me convient plus, je m'en vais.
Stop.
Oui, stop. Ouais.
On respire, et ça se passe bien.
Ouais.
Et donc, il y a une rencontre qui a été assez cruciale pour tes podcasts. C'était la rencontre, du coup, après la vente de Hit Your Box.
Après la vente de Hit Your Box, dans le contrat de vente, il y avait 6 mois de passation. Ils n'avaient pas besoin de personne, donc mon associé s'est proposé. Et là, ils m'ont dit, on vient d'acheter une maison de 150 mètres carrés, 3 étages à Saint-Tropez. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et donc, j'ai dit, j'aimerais la piloter. Ok, super. Eh bien, écoute, elle est en travaux. Il faut que tu trouves la force de vente, les créateurs, les produits à vendre, que tu fasses la vitrine, que tu fasses le retail, que tu trouves la caisse, enfin, que tu fasses tout avec un budget de quasi zéro. Donc, j'ai dit, ok, génial, c'est comme une nouvelle boîte quelque part. Ça c'était vraiment collé à la vente, hein. C'était avant ma longue dépression, hein. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois, donc j'ai passé 6 mois à Saint-Tropez de avril à octobre, c'était génial, donc j'ai monté une boutique, c'est là où on se rend compte que le retail est un vrai métier parce que c'est très compliqué, et il y avait quelqu'un qui supervisait cette mission qui s'appelle Bruno Vinet, qui est un type extraordinaire, qui est devenu un ami, Et quand je suis partie de cette mission, enfin ça s'est terminé en octobre, ok terminé, et c'est là où je me suis dit maintenant je fais quoi, et c'était la fin du monde. Et cette personne est restée un copain, et quand je suis, après j'ai fait Énergie, Guide Michelin, etc. Et quand j'ai terminé Guide Michelin, et que je me suis dit ok, et maintenant qu'est-ce que je fais à nouveau, j'ai déjeuné avec Bruno, et il m'a dit Pénélope, t'as une voix, t'es business, tu sais raconter des histoires, pourquoi tu montes pas ton studio de podcast? Il y a un engouement des podcasts en ce moment, lance-toi.
Donc ça c'était il y a un an.
Et ça c'était il y a un an exactement. Mm. Et je me suis dit, ok, bah allons-y, mais attends, Bruno, c'est quoi un podcast? Mais tu sais, c'est les replays des radios, lui-même était un peu trop court, je sais pas, mais il avait entendu parler. Et donc j'ai dit, oui, d'accord, je sais, bon, je savais pas trop ce que c'était. Hop, je me suis lancée, j'ai farfouillé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les replays des radios, qu'on appelle les podcasts radio, et aussi du podcast natif, qui sont des podcasts originaux créés par le Kidam, hein, donc un particulier ou une entreprise. Et je me suis dit, c'est génial, je vais monter un studio de narration et je vais accompagner les marques pour leur créer leur propre podcast.
Le studio de narration, c'est un mot qui existait déjà ou ce qui est né de ta...
Non, je trouvais ça snob. Non, mais je trouvais ça, ça faisait pas studio de prod.
Ouais.
Ça faisait storytelling, histoire, parce que l'idée, c'était vraiment d'accompagner les marques, de leur raconter une histoire, parce que je trouve que les marques ont du mal à parler, à prendre la parole de façon originale et un peu out of the box, et c'est ça que je voulais proposer. Et donc, je m'y suis intéressée, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait déjà des studios de narration, mais qui s'appellent des studios de production. Et que j'étais pas du tout la première à avoir eu cette idée. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'était Bruno. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je apprenne à faire mes propres podcasts avant de lancer mon studio.
Donc là, dans ta tête, tu te dis, je me lance, je fais un podcast. Est-ce que t'as peur? Est-ce que t'es enjoué? Mais qu'est-ce qui se passe concrètement?
En fait, là, j'ai 34 ans. Et je me dis, il serait temps que je fasse quelque chose qui m'anime. Et donc, quand je me lance dans le podcast, je sais pas trop ce que je vais raconter. J'ai pas peur, j'ai envie. Comme si depuis 10 ans, avec ces 10 boulots différents, je m'étais un peu frustrée. Là, ça suffit. Il serait temps qu'on sorte de soi-même et qu'on soit animé vraiment par ce qu'on fait. Donc, j'ai pas tellement peur parce que pour l'instant, là, je pense pas à quand je vais le publier, ce que les gens vont penser. Je pense à qu'est-ce que je vais faire. Et au moment de qu'est-ce que je vais faire, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je vais raconter? Donc, en fait, moi, je trouvais ça génial de faire des interviews de personnalités et d'essayer de leur tirer des trucs qu'on n'entend pas tous les jours à la télévision. Donc, je fais un test avec un acteur qui est Michael Abitboul. Et je bosse l'émission comme une folle, etc. Et en fait, je suis très mauvaise en interview. C'est-à-dire que soit je lui pose trop de questions, soit je l'écoute trop et j'interviens pas, soit c'est pas drôle, je rebondis pas. En fait, ça ne me va pas du tout. Le format interview ne me va pas. Donc, échec. Hein. Donc, je réfléchis et puis je me dis... Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Et je crois que ce qu'ils aiment aussi, enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, donc il y a d'autres qui doivent aimer, c'est quand on leur mâche un peu le travail. Parce que typiquement, moi, j'adore les biopics au cinéma. Genre Pollock, Colette, etc. Parce que je trouve qu'on apprend tout de la vie d'une personnalité sans avoir à se taper les 15 pages Wikipédia ou un bouquin entier. Et je trouve que c'est une façon ludique d'apprendre à connaître quelqu'un. Et donc, si je faisais une sorte de mâchage de travail pour la mythologie grecque. Et donc, je vais raconter les histoires de la mythologie grecque. Mythologie grecque qui est un enfer à comprendre. Il y a un arbre généalogique hyper compliqué.
C'est ton prénom Pénélope qui a un...
Et alors, je pense que ça joue, en effet, parce que Pénélope, c'est un prénom. Et en fait, je connais l'histoire de Pénélope. Je connais l'histoire d'Ulysse, de Télémaque, son fils. Mais en fait, c'est un peu tout. Et Zeus, Dionysos, tatata. Enfin, il y a plein de choses et c'est passionnant les histoires. Et puis on a l'impression que c'est des histoires vraies, tellement elles nous parlent. Enfin, c'est imaginaire, mais c'est fort. Enfin. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, donc je suis allée acheter 4 bouquins sur la mythologie grecque. Je me suis, pendant une semaine, je vulgarise et je familiarise un peu ces textes-là. Je l'enregistre. Et puis, en fait, je me dis, mais une fois que c'était prêt et tout, hein, qui est-ce que ça va intéresser d'écouter l'histoire d'Athéna dans le métro?
Moi, j'avoue que ça m'aurait intéressé, hein, parce que je suis nulle en mythologie et que ma fille donc, s'appelle Pénélope, comme tu sais, et évidemment, tout le monde me dit « Ah, oh, Pénélope, son Ulysse et tout !» Sauf que moi, je suis complètement nulle en mythologie. Oui, et souvent, et donc, du coup, je ne peux pas non plus faire « Ah oui, bah oui, évidemment !» Et en fait, moi, je trouve que c'est... Enfin, après, personnellement, j'aurais pu l'écouter en me disant « Bah ouais, ça permet de... » Alors, j'adore tout ce que tu fais, mais en tout cas, enfin... Je parle pour moi, j'aurais adoré avoir la mythologie décryptée parce que c'est un truc où tu l'apprends à l'école ou tu l'apprends pas en fait.
Oui, et puis il y a des histoires qui sont passionnantes. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est, je pense, c'est quand tu commences à comprendre les branchages entre les familles des mythologies grecques. Ouais. Et en fait, pour ça, il faut quand même... Enfin, c'est compliqué. Et je pense que du coup, tu connais les 12 travaux d'Hercule, tu connais l'histoire de Dionysos, mais t'es un peu frustré de pas savoir le lien.
Ouais.
Bon, mais
non.
Peut-être un jour.
Un jour, tu le ressentiras.
Et du coup, j'ai abandonné cette idée-là Et j'ai pris une feuille et je me suis dit, Pénélope, t'as besoin, en fait, de tout balancer, ce que tu ressens et tes frustrations que t'as vécues depuis 10 ans avec ces boulots, avec cette vie. Parce que quand j'étais petite, je disais que je voulais être donneuse d'idées, raconteuse d'histoires. Et on m'avait dit, oui, enfin, Pénélope, c'est pas un métier, est-ce que tu veux être écrivain? Je dis, bah oui, oui, je veux être écrivain, bah d'accord, écris un bouquin. Donc j'avais commencé un livre qui s'appelait Le Canard Gérard. Et la première phrase, c'était, il était une fois un canard qui s'appelait Gérard. Ce nom-là était très rare à cette époque. Je faisais des rimes et tout.
C'était quand?
J'avais 8 ans. Et cette phrase-là, et ce livre-là, a été pas du tout publié, puisqu'il n'a été fait que d'une seule phrase.
Ouais.
C'était, ce livre, c'était une phrase. Et je n'arrivais pas à écrire la suite, j'avais pas d'histoire, parce qu'en fait, j'avais la flemme, tout ce côté un peu flemmard. Et donc, j'avais toujours eu cette idée d'écrivain, je dessinais toujours des trucs, je faisais des sculptures dans tous les sens, etc. Mais j'étais frustrée, je n'assumais pas ma créativité et mon imaginaire. Et là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à raconter un premier épisode de ma vie qui m'est arrivé et qui a été assez fondamental pour moi et frustrant. C'est qu'en fait, donc j'ai fait du droit en sortant du bac, alors que j'ai pas eu tout envie de faire du droit, mais je savais pas quoi faire, donc bon, je me suis dit, allez, ça ouvre des portes. Et puis, quand j'ai eu ma deuxième année, j'ai redoublé ma deuxième année, j'ai eu ma deuxième année, j'ai voulu fêter ça avec une copine. On va dans un bar et là, on croise le voisin du bar qui s'avère être le directeur des Ateliers de Sèvres. Les Ateliers de Sèvres, c'est une école qui prépare aux beaux-arts, enfin qui prépare aux écoles d'art. Et là, je lui dis, mais c'est quoi exactement cette école? Et il me dit, bah, c'est, il me raconte et je comprends qu'en fait, il faut imaginer, créer, inventer, raconter des histoires. En fait, c'est exactement ce que je rêve de faire. C'est moi. Et donc, j'ai des pépites d'or dans les yeux et je lui dis, mais je veux m'inscrire. Et il me dit, ok, super. Je lui dis, mais en revanche, j'ai aucun talent manuel, je ne sais pas dessiner, j'ai les mains qui sont moites, ça bave, mains, etc. Il me dit, ça, on s'en fout. En fait, ce n'est pas tellement le talent manuel qui importe, c'est vraiment ce que tu as dans la tête, l'imaginaire, les idées, etc. Donc oui, tu pourrais complètement t'inscrire. En revanche, les inscriptions sont terminées depuis 15 jours, donc tu ne peux plus. Donc là, je lui dis non, 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 c'est pas... En fait, là, j'ai un côté très capricieux quand je n'ai pas un truc...
La pénélopade,
voilà. C'est obtenir quelque chose, a priori, impossible à avoir, mais par l'usure. Et donc, je mets en œuvre cette pénélopade en le saoulant. Non, mais s'il vous plaît, je vous assure, mais attendez, vous allez voir, c'est un truc génial que je vais faire. Enfin bref, je suis insupportable. Franchement, je suis insupportable. Et en fait, ça marche. Il me dit, oulala, bon, écoute, t'as l'air tellement motivé, je trouve un créneau, viens dans 15 jours. Et propose-moi quelque chose. Ok, mais sur quoi? Est-ce que tu veux ta carte blanche? Il faut savoir que la carte blanche dans la création, c'est génial. Et en même temps, c'est frustrant parce que... Enfin, c'est pas frustrant, mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de cadre.
Plus c'est cadré, plus c'est facile.
Exactement. Donc là, il ne me donne rien. Je me dis, ok, merci. Mais tu veux une sculpture, un dessin, une peinture? Ce que tu veux. Sauf que je ne sais ni peindre, ni colorier, ni faire de sculpture. Bon. Et en fait, je suis partie sur « Qu'est-ce que le paradis ?» Alors, en plus, je suis pas du tout pratiquant, donc le paradis, pour moi, ça me parle pas du tout. Mais en même temps, justement, ça me parle tellement pas qu'il y a de quoi parler. Et je suis partie sur... j'ai pris une grande feuille canson. C'est quoi le paradis? C'est des gens qui habitent dans des nuages, donc du coton. Donc, je colle du coton un peu partout. Il y a l'enfer qui est pas loin. D'ailleurs, l'enfer, pour moi, n'est pas en dessous, au-dessus. L'enfer entoure le paradis. Donc, je ramasse des mégots usagés que je colle tout autour de la feuille. Les hommes et les femmes, ils sont à égalité, donc ils sont nus. Donc, je les représente avec des fils de fer que je plante sur la feuille. Enfin, franchement, mon truc est dégueulasse.
Donc, mais t'as laissé parler ta créativité.
Je travaille avec des buvards, hein, mais franchement, c'est sale. Mais j'ai fait parler de ma créativité. Et il y a une philosophie derrière, il y a une histoire, il y a un storytelling, etc. Donc, je suis toute excitée. Maintenant, à force, c'est dans une semaine. Et en parallèle, je prends des cours de théâtre amateur. Et là, il y a une fille qui est dans notre groupe qui s'appelle Juliette, qui est extraordinaire parce qu'elle est... elle est jolie, elle est sympa, elle est drôle. C'est la meilleure des comédiennes parmi nous. Elle est toujours habillée un peu chelou, qu'elle assume complètement. Et en fait, elle est libre d'esprit. Elle s'affranchit du regard des autres. Elle s'en fiche, elle fait son truc, elle fait sa vie, elle s'écoute. Elle est vraiment très forte. À l'époque, je suis jeune, hein, j'ai 22 ans. Et je lui raconte cette histoire. Et là, elle a des paillettes dans les yeux quand elle me regarde. Elle me dit, mon Dieu, mais Pénélope, mais t'as tellement de chance. Je rêve de faire ça, mais j'ai voulu m'inscrire à 15 jours et c'était fermé. Les inscriptions étaient closes comme toi. Et elle me dit qu'elle a essayé de faire le pied de grue en bas de la télé de Sèvres, que le mec n'était pas là, qu'elle a envoyé des mails, le mec
n'a pas. Elle n'a pas réussi à faire une pénélopade qui marche.
Exactement. Elle n'a pas eu la chance surtout de le rencontrer du visu. Je pense que là, il lui aurait ouvert un créneau, mais bon. Et en fait, quand elle me parle, pendant qu'elle me parle, avec un engouement, une vitalité, avec passion, je me dis qu'en fait, moi, j'ai peur. Clairement, j'ai peur de lui montrer mon truc qui est un peu dégueulasse à la télé de Sèvres. Là. Et puis aussi, si jamais il me dit que j'ai du talent, ce qui peut potentiellement arriver, je vais devoir prendre une voie qui est en marge du droit, donc en marge de mon éducation, en marge de mon milieu un peu, Et à 22 ans, en tout cas, je ne suis pas prête à faire ça et ça fait peur. Mmh. Et en même temps, je suis très excitée à l'idée d'être artiste. Mais c'est quoi être artiste? Est-ce qu'on gagne sa vie en étant artiste? Enfin, c'est, tout ça, c'est très compliqué.
Ça, t'en avais parlé du coup avec, avec tes parents, avec tes frères et... Enfin, je ne sais pas si c'est des frères et sœurs.
Oui, j'ai une grande sœur. J'en avais parlé. Ils m'avaient dit, ok, super, bah écoute, fais ton truc et puis tu verras s'ils te prennent. Mais ils me soutenaient. Enfin, ouais. mes parents, ils m'ont toujours dit, si tu veux être peintre en bâtiment, éboueur, vas-y. Si t'es heureuse, vas-y. Il y a aucun... Mais je sais qu'ils préféraient que je fasse un truc. Enfin, je sais, non, en vrai, non. En vrai, je pense qu'ils seraient ravis si je suis ravie avec Ibouze.
Si t'es heureuse, c'est ce qui compte.
Si je suis heureuse, c'est ce qui compte. Donc, ils m'ont toujours soutenue. Donc là, ils m'ont dit, oui, bah, très bien, vas-y, fais te laisser si t'as envie. Si t'es prise, vas-y, attaque. Mais dans le fond, c'est quand même un métier qui est compliqué d'être artiste. En plus, socialement, c'est compliqué. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais à l'époque. Bon. Et donc, je dis, écoute, Juliette, tu sais quoi? Prends ma place. Tu y vas à ma place. Le mec, il ne se souvient même plus de ma tête, donc de toute façon, il a ouvert un créneau, donc tu te présentes et puis tu dis que tu prends ma place, que je t'ai filé ma place, tu veux, je te fais un papier de procuration. Et elle y est allée, elle a été prise. Après, elle a fait la Saint-Martin's, après c'est devenue une grande artiste, et moi, j'ai continué à faire du droit.
Et là, du coup...
Et je m'en suis voulu.
Ouais.
Alors aujourd'hui, je m'en veux plus, parce qu'aujourd'hui, je suis très contente de là où je suis, mais pendant des années, je m'en suis voulu. Mais c'est que j'étais pas... Mais finalement, c'est que j'étais pas prête.
Ouais.
C'est parce que si j'avais été prête... à m'ouvrir à « Ok, je suis prête à faire de l'art et à faire une école d'art », je l'aurais fait. Donc, finalement, il n'y a pas de regret parce que je n'aurais pas pu le faire. J'ai juste pas réussi à choper le wagon parce que
C'était pas
le moment. Ouais.
Mais bon, c'était quand même un beau cadeau que tu lui as offert.
C'était un beau cadeau. D'ailleurs, elle m'a jamais remercié. Ça, c'est quand même un truc. Ouais. Donc, elle est sur mon Facebook.
Ouais.
Je suis tout ce qu'elle fait.
Ouais.
Mais après, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte. À l'époque, à 22 ans, puis j'ai dû lui dire avec... Mais tu sais quoi,
ouais,
prends ma place,
ouais,
je m'en fous, t'inquiète, c'est cool. Non, mais t'es sûre, mais oui.
Oh, je suis grande princesse.
Exactement.
Ouais.
Sans lui faire comprendre que finalement, j'avais du mal, moi, à assumer d'y aller. Donc, elle ne s'est pas rendue compte du truc, je crois. Et puis, depuis, mais peut-être que je devrais aller lui dire, tu sais, je fais des podcasts sur toi. Parce que du coup, cet épisode a été mon premier podcast de l'arnaque.
Que j'ai écouté, je m'en rappelle encore où j'étais à ce moment-là. Donc là, tu te lances, tu fais un petit podcast, donc mythologie, non, interview, c'est pas ton truc.
Et je lance dans l'arnaque, je fais ce premier épisode, après je fais un deuxième
épisode. Donc déjà, le nom de l'arnaque...
Alors, le nom de l'arnaque, c'est très compliqué, l'arnaque, on me dit pourquoi l'arnaque, etc. Moi, je pense fondamentalement que l'éducation, c'est un lavage de cerveau.
Mm-hmm.
On passe tous par là. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est un lavage de cerveau qui vient de nos parents, qui vient de leurs névroses, qui viennent de leurs parents eux-mêmes, etc., etc., etc. Donc, il y a une longue lignée de névroses derrière. Et nous, on subit ça. Et en fait, on croit aussi que c'est la société qui veut nous mettre dans des cases. Alors qu'en fait, c'est pas la société qui veut nous mettre dans des cases. C'est nous qui croyons que la société veut nous mettre dans des cases.
Mm-hmm.
Et comment est-ce qu'on s'affranchit tout ça? En s'affranchissant, en se lavant de ce lavage de cerveau, en se nettoyant de ça. Et pour ça, c'est très compliqué. C'est un travail à faire, je pense, sur soi. Enfin, moi, personnellement, j'ai vu quelqu'un qui m'a aidé, etc. Et je pense que la clé, c'est de s'écouter. Seulement pour s'écouter, il faut s'affranchir de tout le reste, de l'extérieur, etc. Et c'est hyper dur. Et je pense qu'une fois pour trouver sa place, il faut réussir à s'écouter, à être authentique et à s'affranchir de tout ça. Et c'est le plus difficile. Et moi, j'ai réussi, je crois, en tout cas, à 35 ans, je me sens à ma place. Je suis en paix avec moi-même. Et c'est un plaisir énorme. J'ai l'impression d'être heureuse. Chose que je ne pouvais jamais dire avant. Dire je suis heureuse. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Mais fondamentalement, je suis heureuse parce que je suis ce que je suis.
Et elle te disait quoi, du coup, ta petite voix? Tu dis je m'écoutais, mais qu'est-ce qui...
Quand ça?
Avant le podcast ou quand tu dis je me suis écoutée?
En fait, ma petite voix, il n'y a même pas eu de travail. Ça s'est imposé. Ça s'est imposé. J'en pouvais plus depuis 35 ans de me cacher de ce Pénélope, t'es une artiste, assume, raconte des histoires, écris. Oui, c'est pas des métiers, mais c'est pas grave qu'il n'y ait pas de métier. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un métier? Et donc, naturellement, à force d'avoir fait plein de choses, de m'être ramassée, plantée, etc., ça s'est imposé. Donc,
c'est un peu comme une évidence.
Ouais. Un peu comme un couple qui tombe amoureux, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Je sais pas, je l'aime. C'est pareil.
Ouais. Donc là, tu lances l'arnaque.
Donc je lance l'arnaque. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Mes potes écoutent, les potes de mes potes écoutent, mes parents écoutent, j'ai m'écoute. Donc ça fait quelques écoutes. Mais bon, moi, en fait, je ne sais même pas où je vais. C'est-à-dire qu'à la base, je fais ça pour que ça fonctionne, pour qu'on dise, ah bah tiens, cette fille, elle fait des bons podcasts. Ah bah tiens, je suis une marque, je vais la contacter. Et puis un jour, j'ai ma bannière en podcast recommandé sur Apple.
Avant ça, je crois qu'il y a eu une période où tu l'as fait écouter à des professionnels du podcast qui t'ont dit « Non mais Ariane... »
Ah, incroyable. Donc ça, je fais écouter à des anciens de grosses radios que j'avais eues en réseau. Ils écoutent mon podcast et ils me disent « Bah, c'est super, Pénélope, ton podcast, mais alors tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire. » C'est-à-dire, bah, tu fais toutes les erreurs du podcast. Ah, parce qu'il y a des règles dans le podcast. Mais oui. Ah, bah, par exemple, tu fais un format de 5 minutes. Oui. Et en fait, un podcast, c'est pas court, c'est long. Un podcast, c'est 30, 35 minutes, c'est 40 minutes. Il y a forcément un invité. Là, tu fais un jingle au début, un teaser au début, un teaser à la fin. Sauf que ça n'existe pas, personne ne fait ça. Et à nouveau, on me dit, il faut que tu rentres dans des cases. Mais des cases qui n'en sont même pas une, même pas, parce qu'il n'y a pas de cases dans la création, en fait. C'est ça, la blague. Donc, donc, je doute, en fait.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Du coup, là, t'es en...
Ah ben là, je suis en plein doute, je me remets en question. Sauf que pareil, ce truc de... J'ai besoin de le sortir. Et au pire, personne n'écoutera. Et en même temps, si personne n'écoute, eh ben, c'est pas très grave parce que justement, personne n'aura écouté, personne ne saura que j'ai fait un four. Et je lance quand même, alors même que... Et ça marche quand même
un peu. Tu lances combien d'épisodes ?
Ah bah, j'en lance deux par semaine. Deux par semaine. Ça écoute un peu. Et au moment où j'ai 30 épisodes, j'ai ma bannière en recommandé sur Apple Podcast.
Mais qui n'est pas arrivée par hasard.
Je me suis demandé pourquoi il y a des gens qui ont leur bannière recommandée sur Apple Podcast. Je veux cette bannière recommandée. Je suis même prête à me craquer et à mettre 500 euros, 1000 euros, je ne sais pas combien ça coûte, mais je veux cette bannière recommandée. Même, en plus, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait, mais je voulais avoir cette bannière recommandée.
Parce que tu as une âme de winneuse.
Parce que j'ai une âme de compétitrice, exactement. Et j'ai contacté tout Apple, hein, monde, Dublin, New York, Los Angeles, Londres, Paris, enfin partout, en disant « Salut, j'aimerais ma bannière recommandée, comment on fait ? Voici mon visuel, mettez ma bannière en recommandée. » Et il faut savoir que Apple ne répond jamais, parce que si jamais ils te répondent, du coup ça devient une conversation, ils ont autre chose à foutre. Et donc on ne me répond pas. Et un jour je me lève, donc généralement le matin à l'époque, quand je me levais à 6h50 du matin, c'est mon réveil de...
Naturel,
parce que c'est à l'heure à laquelle je poste mes podcasts. Quand je me réveillais, j'avais 150 écoutes. Et un jour, je me réveille et j'ai plus 1200, 1800 écoutes. À 7h, 6h50 du matin, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je regarde partout, je ne comprends pas. Et je reçois j'ai même des messages sur mon Instagram dans les autres demandes, là, des gens que je ne connais pas, qui me disent, mais Pénélope, c'est génial, merci, j'ai découvert l'arnaque, etc. Et je me rends compte que j'ai ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Et là, je suis passée de environ 300, 500, 800 écoutes par jour, à 8000 écoutes par jour. Et là, c'est le jackpot, quoi.
Tu fais quoi? Tu fais une danse de la joie?
Alors, je fais une danse de la joie. Franchement, j'ai les chevilles qui enflent une journée. Je me prends pour Maria Carré. Parce que vraiment, je reçois... Et là, je me suis dit, ça doit être l'enfer d'être une célébrité. Parce que je reçois... J'ai reçu pendant deux semaines, ça a duré. Parce que du coup, j'ai été sur Apple Podcast pendant un mois. Le fort, il est vraiment sur les deux premières semaines. Et pendant deux semaines, je reçois tous les jours des trentaines, 30 messages sur Instagram de gens inconnus au bataillon qui me disent « Mais Pénélope, c'est génial, ça rebooste, merci, je viens de découvrir un podcast génial, etc. » Mais alors que je débarque du truc, enfin, alors que tout le monde me disait « Oui, oui, c'est nul, c'est pas
ça bon. » Ça faisait combien de temps que tu avais lancé
4 mois. J'ai lancé en novembre et ça arrivé en janvier-février. Et c'était oufissime. Et après, ça a continué, et puis j'ai continué. Donc là, aujourd'hui, j'ai 85, 100, 100 épisodes de l'arnaque. J'en suis à la saison 7. Et alors, après ça, donc janvier, février, toc, ça cartonne. Je continue, c'est génial. Donc là, je prends encore plus de plaisir du coup à le faire en me disant qu'il y a vraiment du coup des vrais gens qui écoutent et pas juste mes copains. Et je me dis, j'aimerais faire un autre format. Et je lance une deuxième chaîne qui s'appelle Pic Parole. D'ailleurs,
c'est comme ça que je t'ai connue.
Tout à fait. Donc Pic Parole, c'est des... J'interview des gens qui ont eu un parcours extraordinaire en off, et après je raconte leur histoire à la première personne du singulier, et je rajoute plein de pistes de son en fond, et c'est une sorte de... Je revisite un peu l'interview. Et ça me prend 20 heures de travail pour en faire un, c'est un format qui dure 12 minutes, versus l'arnaque qui me prend 2h30 pour écrire, monter, etc. Donc, et j'en fais, et ça prend, mais ça prend pas du tout autant que l'arnaque. Je comprends pourquoi, alors que moi, vraiment, c'est un produit que j'adore travailler.
C'est génial.
Ben ouais, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi, ça marche pas. Alors c'est pas trop long, parce que 12 minutes, alors qu'il y a plein de trucs qui font une heure, c'est pas que c'est trop long. C'est un peu élite, je sais pas ce que c'est. Mais bon, j'en fais 16. Et puis là, je continue toujours l'arnaque en parallèle. Et puis j'ai envie d'écrire des histoires sorties de nulle part. Et donc je lance une troisième chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 fictions. Et là, j'écris des fictions, des vraies fictions audio. Donc j'ai écrit une première fiction qui s'appelle Cupla, K-U-P-L-A. C'est 8 épisodes de 15 minutes avec des comédiens. Avec un vrai scénario, c'est comme un film Netflix sans l'image. Et là, je m'éclate, je fais ça. Là, ça me prend 100 heures de travail. C'est un boulot énorme.
Et du coup, comment tu fais pour financer? Parce qu'à chaque fois, donc, t'as des enfin, pour, en tout cas, pour un, deux, trois fictions, tu as des comédiens, ouais, des studios, bien, un studio à louer.
Je ne finance pas, donc tout le monde est bénévole.
D'accord.
Donc là, les comédiens, c'est vraiment un énorme merci parce que c'est beaucoup de temps de travail. C'est environ 50 heures de taf, ouais, avec eux. Donc c'est 3-4 jours, quoi, plein. Dans un appartement, puisque c'est chez moi, puisque je n'ai pas les moyens de prendre un studio, donc c'est dans mon appart, c'est du temps, ils doivent apprendre le texte, enfin ils apprennent à moitié, mais ils lisent le texte, et puis c'est beaucoup, en fait c'est du temps, ouais, ça me coûte du temps, ça ne me coûte pas d'argent, ça me coûte juste du temps, l'ingé son, bah, c'est moi, donc le son n'est pas extraordinaire sur cette première fiction, mais franchement,
ça s'écoute super
ça
bien.
Ça s'écoute, et ça marche bien. J'ai, je sais plus combien, mais j'ai 70 000 téléchargements assez rapidement. Et puis ça prend. Là, pareil, bannière recommandée sur Apple Podcast.
Sans rien faire?
Ou t'as pareil, je renvoie par design, ouais, en espérant
you,
que...
sachez que j'ai encore fait quelque chose.
Et un jour, je vois mon truc génial. Et donc là, pareil, ça marche bien. Après, c'est une fiction qui est un peu spéciale parce que il y a un côté un peu déjanté.
Ouais.
Donc soit ça plaît, soit vraiment on se dit que c'est affligeant. D'ailleurs, il y a des... C'est marrant parce que les commentaires sur Apple, c'est brillant ou c'est affligeant. Là, récemment, j'ai eu une étoile, c'est des dialogues d'un enfant de 5 ans.
Bon, oh, donc, ok. Voilà. Ouais. Après, moi, j'avoue que j'ai été... Enfin, je l'ai écouté. J'avais 2 heures de train. Je me suis dit, c'est parfait, nickel. Donc, je me suis envoyé ça dans le train. Moi, j'ai trouvé ça génial. Après, c'est sûr que c'était déroutant parce que comme tu avais l'habitude de faire du vrai, donc ouais, avec l'arnaque, et là, on passe sur vraiment de la fiction avec un côté un peu paranormal, ouais, et compagnie. Du coup, on fait waouh, mais, ouais, mais ça... Enfin, moi, je trouve que ça apporte énormément de fraîcheur et ça... Enfin, toutes mes copines qui me disent « Ah, oh, j'ai le train », je dis « Écoute, c'est quoi, t'as pas tes enfants ? Vas-y !»
Oui, écoute, ça part un peu en vrille. Mais là, donc
mais,
là
mais en même temps, c'est ce qui c'est différenciant aussi.
Mais c'est différenciant, mais souvent ce qui est différent, on plaît pas toujours.
C'est ça.
Mais donc j'ai lancé ça, et là je lance une deuxième fiction qui sort dans la semaine prochaine,
ouais,
qui s'appelle Rap and Roll. C'est un peu moins déjante que la première fiction, mais il y a ma patte, hein, donc voilà. Et là, pareil, il y a 10 comédiens, donc là on s'est enfermé pendant un week-end, pour le coup avec un ingé son, donc le son est propre. Parfait. C'est pas des faux sons que j'ai mis, mais quand j'étais dans la rue ou quand il y a des bruits de pas, etc., c'est des vrais sons qu'on a enregistrés. D'accord. Avec un vrai enregistreur. Donc c'est comme si c'était en réel. Donc celle-là, j'ai hâte que ça sorte.
Et là, du coup, quand tu as fait la première fiction, oui, tu l'as envoyé à d'autres personnes. Tu l'as envoyé à tes amis avant de l'envoyer à tout le monde ou...
Ah, pour qu'ils l'écoutent avant. Ouais. J'ai envoyé un ou deux épisodes à quelques copines.
Ouais.
Qui m'ont dit c'est super, vas-y shoot, et puis de toute façon tu sais quoi, elles m'ont dit, il y en a une qui m'a dit tu sais quoi, de toute façon c'est toi, donc lance. Alors oui, je peux te dire que là la musique est un peu trop longue, etc., mais sur le fond, tu sais quoi, vas-y shoot ton truc, fais-toi confiance, ouais, on y
t'as,
va.
Donc du coup tes amis sont super encourageants.
Ouais, mes amis sont super encourageants. Après, je me suis fait d'autres copains, ouais, à force d'être en fait sur du virtuel, hein, parce que le podcast est digital. Donc par exemple, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Sophie Astravi, qui m'a contactée un jour sur Instagram pour me dire j'ai découvert tes podcasts, c'est super. Et du coup, on a parlé parce qu'elle était sympa et j'ai découvert qu'elle avait écrit un bouquin qui était sorti chez Albin Michel. Et donc, je me suis intéressée et on a parlé, on est devenues copines. Et puis du coup, j'ai fait un pic-parole sur elle et elle, c'est devenue une amie, par exemple.
D'accord.
Ou une autre copine qui fait des prestations de barbe à papa pour des événements entrepreneurs, créatifs. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'à force, je me lie d'amitié avec des gens qui partagent plus de choses que mes copains avec qui je faisais du droit, forcément. Et mes vrais amis sont toujours là, etc. Mais ceux à qui je fais écouter, c'est ceux qui sont un peu dans la création aussi. Parce
un
qu'ils
peu
sont
plus sensibles. Ouais. Ouais. C'est marrant ce que tu disais sur les formats de 4 minutes, parce que donc maintenant, c'est mon deuxième épisode. Et la semaine dernière, j'ai déjeuné avec une personne qui me dit « Mais moi, je suis complètement fan de podcasts et tout. » Je dis « Bah écoute, est-ce que tu écoutes La Toile sur Écoute ?» Ouais. Elle me dit « Bah non, je connais pas. » Donc, je lui fais le petit topo. Elle me fait « Ah non, moi, les trucs de 4 minutes, j'écoute pas. » Je dis « Mais vas-y, écoute, franchement, tu te les fais en boucle. » Et mon premier épisode, je l'ai fait écouter donc à mon entourage proche et un peu moins proche pour avoir des avis. Et tout le monde beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude des podcasts m'ont dit « Non, mais attends, une heure, c'est beaucoup trop long. » Et j'en ai reparlé du coup avec Mathieu Stéphanie qui me dit non mais attends Charlotte, il écoute pas ces gens là parce qu'en fait ils ont pas l'habitude des podcasts et puis si c'est intéressant ils resteront au bout en
exactement
fait.
En fait tout est une question de compte,
c'est ça, oui, donc faut écouter ce que les amis disent, mais d'un autre côté
c'est là où c'est compliqué, ouais. C'est pour ça que, et d'ailleurs tout comme moi j'évite quand je veux lancer, parce que là je veux lancer une nouvelle chaîne, donc il faut que je m'inspire parce que je sais pas trop encore quoi, et en fait si j'écoute trop de podcasts,
ouais,
je vais vouloir prendre leur truc, alors que c'est leur truc, donc ça n'ira pas sur moi, et c'est très difficile, donc j'essaye d'écouter le moins de podcasts possible pour m'inspirer, parce que sinon Et puis des amis qui vous donnent des... C'est pour ça que quand on lance un truc, c'est génial de le faire partager. Et il faut un feedback is a gift, hein, mais il faut faire attention parce qu'avoir trop d'avis, après ça vous déroute et vous vous oubliez complètement.
On est d'accord. Donc là, c'est quoi là? Est-ce qu'il y a encore de... Enfin, je crois que je sais pour une chose. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, bah ok, maintenant, pourquoi pas moi?
Pourquoi pas moi? Oui, alors, il y a un truc qui me titille depuis quelques temps, mais en fait, c'est les auditeurs qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est qu'on m'a dit, mais Pénélope, est-ce que tu fais des spectacles? Non, est-ce que je fais des spectacles? Bah non. Mais si, tu devrais faire un one-man show avec tes arnaques. Sauf que moi, je ne suis pas une humoriste. Mais si, c'est génial, tu les racontes, hyper drôle, etc. Et puis, en fait, à force, là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Et donc, je me lance dans le one-man show. Et donc, je suis en train d'écrire un spectacle pour octobre prochain.
Génial.
Et donc là, je l'écris là. Il sera terminé mi-janvier. J'ai fait une première scène de 10 minutes à un tremplin, Les Jeunes Talents du Rire, que j'ai complètement foiré parce que j'étais... Bref, j'ai été à fond, c'est-à-dire que j'étais énergique, à ma place, etc. Mais le texte n'était pas assez fort, j'ai mal joué parce que je n'avais pas eu vraiment de boulot de metteur en scène avant. Mais j'ai pris énormément de plaisir.
Ouais, c'est ce qui compte.
Mais c'est ce qui compte. Et quand j'étais sur scène, je me suis dit, mais je suis bien là sur scène.
Pour reprendre, je ne sais plus si c'était la Starac, que tu as une bonne présence scénique.
Exactement. Bah, je ne sais pas si j'ai une bonne présence scénique, mais en tous les cas, moi, je me suis sentie bien. Donc, c'est déjà un bon premier pas. Et donc, je sors ça normalement en octobre. Après, il faut que je me fasse produire, il faut que je trouve un producteur, etc.
Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Donc là, en gros, t'écris. Et puis après...
J'écris, je travaille avec un metteur en scène pour qu'il soit prêt. Donc,
que j'ai identifié. Déjà. Ouais, oui, c'est bon.
Et après, il faut que je fasse produire parce que ça coûte très, très cher de faire un spectacle parce qu'il faut louer les salles. Si jamais ça ne remplit pas, il n'y a pas d'entrée, etc. Et généralement, ça ne remplit pas au début. Donc, c'est très compliqué. Donc, pour se faire produire...
Mais t'es un peu une star, donc normalement, ça devrait...
Ah, bah, je suis une star multinationale avec mes 2000 followers et mon million d'écoutes. Non, c'est très compliqué.
Ouais.
Le problème que j'ai, c'est que je ne suis pas une humoriste. Mmh. Donc, si je peux aller tester mes petits morceaux en scène ouverte, le problème, c'est que c'est souvent du 3-5 minutes. Et comme je ne suis pas une humoriste et que je ne fais pas de la vanne, je ne fais pas rire tout de suite. Et 3 minutes, ça ne me suffit pas. Il me faut du 10-15 minutes. Donc, je ne sais pas comment je vais réussir à me faire connaître. C'est un vrai sujet. Mais en mai prochain, je sors un livre. Je ne peux pas encore dire la maison d'édition. Mais je sors un livre chez une grosse maison d'édition.
Ouais.
Et j'espère que ça va fonctionner un peu et que il y a des gens qui vont entendre parler de moi et du coup que j'arriverai à trouver un producteur en surfant sur la réussite de ce livre. Mais bon, il y a très peu de livres.
Un livre sur quoi?
Alors, c'est un livre, je n'ai pas encore le titre parce qu'on ne l'a pas encore trouvé, mais c'est je reprends des épisodes de l'arnaque, puis j'en ai créé des nouveaux, des inédits.
D'accord.
Et c'est en toute humilité l'histoire de Pénélope. Mais c'est avec mes histoires de vie, avec tout un côté justement, lavage de cerveau. On n'écoute pas ses parents. Enfin, moi, en fait, il s'est passé plein de trucs dans ma vie parce que j'ai jamais écouté mes parents. Par exemple, mes parents, ils m'ont toujours dit, c'est un exemple con, mais toujours du cash en euros sur toi quand tu pars à l'étranger. Oui, d'accord, sauf qu'en fait, je tire toujours des battes quand je vais en Thaïlande et je prends jamais d'euros. Donc, j'ai 5 euros, mais bon, ça sert à rien. Et il s'est avéré que je me suis retrouvée un jour au Vietnam à avoir plus de battes, la carte bleue qui passe plus de cash, plus d'euros, et il fallait que je me déshabille complètement, et j'ai terminé mon road trip en maillot de bain à moto, ce qui est quand même très dangereux, parce que j'ai dû donner toutes mes affaires en échange d'argent pour avoir de l'essence. Et le truc, c'est de se dire, on n'écoute pas ses parents parce qu'on a besoin de se faire notre propre expérience pour comprendre, il n'y a rien de mieux que de se faire son propre expérience, parce que justement, on croit que l'éducation est un lavage de cerveau, etc., etc. Et donc tout le fond de mon bouquin, c'est de dire, il faut faire les choses pour essayer de se réaliser et pour essayer de comprendre que en fait il n'appartient qu'à nous de rentrer dans notre propre case.
Est-ce que tu as des modèles, des gens que tu suis ou tu dis qui t'inspirent?
Non, alors je sais jamais trop répondre à cette question parce que j'ai pas tellement. Après, il y a plein de, j'ai pas de nom là, mais il y a plein de gens que je suis, que je trouve super, mais j'ai pas ces trucs là de je suis fan de rien ni de personne. Il y a des trucs que je trouve, alors là par exemple hier j'ai découvert, mais ça n'a rien à voir, mais j'ai découvert un podcast lunaire. Moi, j'ai du mal à trouver un podcast qui me fasse rire. J'aime beaucoup À Bientôt de te revoir avec les interviews, etc. Mais ça ne me fait pas rire, pisser dessus sur mon canapé. Et là, je suis tombée sur un podcast hier qui s'appelle Réveil Lapin. Et Réveil Lapin, c'est un type qui s'appelle Jean-Patrick, rien que son prénom est drôle. Et il est en total impro pendant une heure. Et il se réveille le matin et il dit, bah voilà, salut, je mange mes Choco Pops. Et c'est tellement lunaire ce truc que ça me fait hurler de rire. Bon voilà, mais c'est pas, il m'inspire pas non plus, mais pourquoi pas faire un truc avec lui par exemple. Enfin, je réfléchis, mais...
Un truc décalé.
Un truc décalé, oui, complètement.
Et là, dans l'arnaque, il y a le côté un peu imposteur.
Dans l'arnaque, il y a complètement le côté imposteur, parce qu'en effet, on est notre propre arnaque avec ce truc de, on croit que c'est la société qui veut nous mettre dans des cases, en fait, c'est nous. Et puis... évidemment, on se sent jamais, enfin je pense que personne, ou à moins d'avoir un ego démesuré, mais personne se sent légitime quand il commence des nouveaux trucs. Même quand on, typiquement, quand on devient manager alors qu'on l'a jamais été, on se sent pas légitime. Quand on fait des podcasts, quelle est ma légitimité à ? Quand on fait de la vidéo, j'y connais rien. Donc il y a un vrai truc. Mais en fait, pareil, bah, comme tout le monde a ce syndrome de l'imposteur, allons-y.
Sauf les imposteurs.
Sauf les vrais imposteurs. Ouais. Exactement, sauf les vrais imposteurs. Eux, et d'ailleurs, ils ont un ego démesuré. Et... Mais il faut se lancer, on s'en fout. Mais on s'en fout, et bah, t'es pas légitime. Et qui est légitime de quoi ? En fait, c'est quoi la légitimité, quoi ? Qu'est-ce qui te... Peu importe. Tout comme, même si t'étais expert de la naturopathie, j'en sais rien, tu vas sur une émission pour parler de naturopathie, certes, t'es expert, mais t'en auras toujours un qui est plus expert, donc pourquoi toi, t'es plus légitime que celui qui n'a pas été appelé ? Enfin, on s'en fout, quoi. Il faut faire son truc.
Se faire plaisir.
Se faire plaisir, exactement, kiffer.
De quoi tu es le plus fière aujourd'hui ?
Ah là là, c'est une vraie question, ça. Je crois que je suis... Non, je suis plus fière. Je suis pas... En fait, j'ai pas cette notion de fierté, je crois. Je suis pas fière... Je suis heureuse. La fierté, elle est remplacée par le bonheur. Là. Je suis pas tellement... Je suis fière de rien parce que j'en ai tellement bouffé, j'ai tellement ramassé, pris des claques et tout que... Je suis pas fière, je suis heureuse d'avoir réussi à me trouver. Non, si peut-être que je suis fière quand même. Je suis fière de ne pas avoir lâché et de pas m'être dit, bah peut-être que finalement il y a rien qui est fait pour moi et que en fait on a tous un truc qui est fait pour nous. Mm-hmm. On a tous un truc qui est fait pour nous. Moi, j'avoue que, mais on me le dit, moi je me rends pas compte, mais c'est à force les gens me le disent que j'ai une énergie de ouf, etc. Je m'en rends pas compte, parce que forcément, je suis comme ça, c'est moi. Mais je crois que je suis née avec une sorte de... Les doigts dans la prise électrique, il doit y avoir un truc. Et si on n'est pas née avec les doigts dans la prise électrique, avec cette énergie débordante, on est née avec quelque chose d'autre. Et il faut juste réussir à sortir de ça. Et ça, il faut aller chercher très loin. Et pour ça, il y a du taf, et c'est dur. Et il faut, je pense, se distancer un peu de sa famille pour essayer de se retrouver soi. Et donc, c'est passer par des gros trucs. Mais on est tous nés avec un petit truc qu'il faut juste faire ressortir. Et moi, cette énergie-là... Elle m'aide énormément puisque dès que je n'ai pas quelque chose, j'y vais, j'ai pas peur, je fonce, je ne lâche rien parce que j'ai cette énergie qui fait que. Et c'est juste cette énergie. Donc en fait, ce qui me définit, moi, c'est cette énergie. Donc je suis fière de mettre cette énergie au profit d'eux.
D'accord.
Voilà.
Tout simplement. Bah, c'est chouette, ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose ou un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne mais qu'on t'a pas donné à l'époque ?
Bah en fait, j'aurais aimé, je crois, être accompagnée depuis que je suis toute petite par quelqu'un, par une petite voix qui me dise « Pénélope, fais ce qui te plaît. » Et si tu crois que ça ne va rien t'apporter, c'est faux. Ce que tu es en train de faire va t'aider. Alors, on me l'a toujours dit, genre « Oui, tu te ramasses, c'est pas grave, tu vas te relever. » Sauf que j'ai jamais compris. Sauf qu'en fait, cette petite voix ne pourrait jamais exister parce que cette petite voix, c'est la nôtre. Donc, et c'est important de se faire sa propre expérience et c'est important de jamais se comparer. On a tendance à se comparer tout le temps et à se dire justement, mais tu regrettes pas de pas avoir pris le train quand l'autre il a déjà 4 wagons devant? Ben je regrette pas parce que si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Et tous ceux qui ont des regrets, oui, mais c'est qu'ils étaient pas prêts à le faire, donc il faut juste bosser à comment je pourrais la prochaine fois choper le train. Donc il y a pas, en fait, non, je pense que j'aurais, non, je... C'est très dur. J'aurais aimé ce que j'aurais aimé, mais c'est impossible. J'aurais aimé avoir trouvé ma place bien avant. Parce que ces années, pendant 10 ans, où tu te cherches, tu galères, tu te sens une merde, tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Où est-ce que je vais ? Je suis paumée, les gens me trouvent atypique, impertinente. Mais c'est juste qu'en fait, je suis en train d'essayer de me trouver moi. Et on se sent différent et c'est compliqué. Mais finalement, c'est pour se trouver soi. Donc, je pense qu'il y a... On ne peut pas être accompagné de qui que ce soit, c'est nous qui devons. Et si on décide d'aller dans la boutique de gauche plutôt que dans la boutique de droite, c'est qu'on va dans la boutique de gauche pas pour rien. Et peu importe pourquoi, on y va et là derrière quelqu'un peut nous apporter quelque chose. Et en fait, il y a quand même un truc très important, c'est qu'il faut se dire que tout ce qui se passe autour de nous peut être une opportunité. Et on est notre propre opportunité. Ça veut dire que... Je sais pas, vous allez dans un café, quelqu'un vous dit, ah bah tiens, est-ce que tu veux, je dis n'importe quoi, que je te donne ce bracelet brésilien. Oui, ah bah tiens, le Brésil, mais pourquoi pas et tout peut. En fait, la vie est une sorte de toile qu'il faut tisser et l'emmener. On ne sait pas où, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on retombe sur nos pattes.
Ouais.
Et ça, il faut juste se le mettre en tête, parce que c'est génial. Et dans ce cas-là, et quand on voit la vie comme ça, mais la vie est un cadeau. Et tous les gens qu'on rencontre, on est moins frustré, on n'est pas agressé, on se sent pas agressé. Et tous les gens qu'on rencontre, on les trouve super pour certaines raisons, moins bons pour d'autres, mais c'est pas grave, on prend le super de chacun. Mmh. Et oui, mmh. Et on s'ouvre au monde, quoi. Et dès qu'on s'ouvre au monde, mais plus rien ne fait peur. Parce que finalement, dans quelques années, on sera que de la poussière avec, dans une tombe. Et on a été là sans rien demander à personne et on n'a pas tellement le choix. On est là. Et plutôt que de subir sa vie, pourquoi est-ce qu'on la kiffe pas et on se dit, mais mon Dieu, mais on a cette chance quand même, quand on y réfléchit. Hein, on a cette chance d'être là. Dans quelques années, c'est terminé. Plus personne n'en a rien à foutre de nous. Enfin, c'est terminé. Tout ça. En fait, tout ça, c'est fake, quoi. C'est un peu comme si on était en Truman Show. Mm-hmm. Et bien, autant... faire de ces moments, mais des moments magiques, joyeux, et de se donner les moyens. Finalement, on a peur de quoi? On a peur des autres, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'étranger. Mais en fait, tout le monde a peur, donc allons-y, quoi.
Go.
Mm. Croquons les bonbons à pleines dents.
C'est, cet été, mon mari me disait, j'étais un peu en plein burn-out, et il me dit, écoute, laisse-toi le temps, réfléchis pas à ce que tu veux faire, arrête d'être en mode plan d'action et tout. Il m'a dit, tu verras, tu vas rencontrer des gens et puis de là vont naître des opportunités. Mais moi, dans ma tête, je dis, non mais moi, il faut que j'ai un plan d'action, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je vais lancer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, depuis allez, un mois, je commence à ressortir. Je continue à avoir des amis, mais à revoir des gens de l'univers pro. Et en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit, ah bah tiens, on pourrait avoir tel projet ensemble et compagnie. Génial. Et en fait, c'est clairement génial, mais il y a deux mois, jamais de la vie, je l'aurais cru en fait. Non. Et
c'est en le faisant que tu t'en rends compte.
C'est en le faisant que je. Bah, alors maintenant, clairement, enfin, avant, je voulais pas rencontrer les gens parce que je me sentais pas prête.
Ouais.
Mais maintenant, je me sens prête. Bah, clairement, à chaque rencontre, chaque déjeuner, c'est bah ouais, on pourrait faire ça ensemble. Bah ouais, carrément.
Ouais, c'est génial.
Et moi, j'y croyais pas quand il me disait ça il y a deux mois. Et en fait, mais il faut y croire et il faut se laisser l'opportunité de.
Oui, mais la difficulté, elle est justement dans ce moment où tu crois pas et que tu y crois, c'est. Qu'est-ce qui fait que tu fais ce pas à ok, j'ai fait un premier pas où je rencontre quelqu'un tout comme j'ai pas envie de faire de sport, ouais, ben là, cette fois-ci j'y vais. C'est ce moment, la première fois que tu commences à faire, et une fois que c'est fait, après c'est
ça.
Mais voilà, il est difficile ce passage de ok, j'y vais, je vais rencontrer des gens et je m'ouvre.
Ouais.
Parce qu'une fois que tu l'as fait, après t'adores ça et c'est parti quoi.
Ouais. C'est... Pour finir, est-ce qu'il y a une personne que t'as envie de remercier et pourquoi?
Oh là là, j'ai envie d'en remercier plein. Non, j'ai envie d'en remercier plein, j'ai envie d'en remercier ce Bruno Vinet qui m'a fait aller sur cette voie qui me correspond complètement. J'ai envie de remercier tous ces gens qui me suivent au quotidien que je ne connais pas. J'ai envie de remercier aussi mes copains qui me soutiennent, parce que il faut savoir quand même que les podcasts, en plus, ils parlent essentiellement de moi, donc c'est très auto-centré. Donc je suis dans une période très auto-centrée où je réfléchis tout le temps, je suis tout le temps sur mes projets, je suis pas forcément disponible, et mes copains, ils sont quand même toujours là et ils sont venus à mes 10 minutes de one man show à Gagny, qui n'étaient pas à Paris, donc ça faisait beaucoup de trajets, et ils sont venus, et ils m'ont soutenue, et voilà. Et en fait, finalement, je remercie qui ? Je remercie mes parents d'avoir eu autant de névroses, parce que ça m'a permis d'aller voir un psy et de trouver ma place. Donc finalement, je remercie tous ceux qui m'ont aussi mis des bâtons dans les roues, parce que c'est aussi eux qui m'ont fait me poser la question de « Attends, mais pourquoi ta, vas-y, réfléchis ». Je remercie la vie, quoi. Oh, c'est beau, je remercie la vie.
On remercie le monsieur qui t'a mis la main devant la bouche.
On remercie le monsieur qui a mis la main devant la bouche. On remercie tous les recruteurs qui, quand ils me demandaient, Pénélope, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi ? Et je leur disais, arrêtez avec cette question de merde, je m'en vais. On les remercie parce que finalement, je ne suis donc pas chez British American Tobacco à vendre des cigarettes en marketing. Donc, on remercie tous ces échecs, en fait. On remercie tous ceux qui m'ont fait me relever. Parce que finalement, c'est eux qui ont réussi à faire de moi quelqu'un bien dans ses pompes.
Merci beaucoup, Pénélope.
Merci,
et
Charlotte.
Puis, évidemment, suivez La Toile sur Écoute sur toutes les chaînes. Merci.
Merci.
J'espère de tout cœur que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai besoin de vous. Besoin que vous parliez de Pourquoi pas moi autour de vous. Et aussi que vous alliez sur Apple Podcast pour mettre des étoiles. On sent que c'est encore mieux. Et laisser un commentaire pour donner envie à de nouvelles personnes d'écouter leur petite voix et la mienne. Parce que c'est le lancement, découvrez sans attendre le deuxième épisode avec une personne haute en couleur et tout aussi inspirante, Laurent Régarez. Qui ? Mais oui, vous savez, Chicandier. Chicandier, le célèbre humoriste qui fait des vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour rester en contact, retrouvez toutes les informations sur le site pourquoipasmoi.co. À bientôt !